Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 29e de notre 9e saison. Je reçois aujourd'hui Frédéric Falcon. Bonjour.
Bonjour.
Député de Narbonne. Alors, monsieur Falcon, on va d'abord commencer par... Vous êtes nouveau en politique et notamment dans la Narbonnaise. Alors, on va vous demander d'abord de vous présenter et peut-être d'apprendre à connaître d'où vient l'engagement, puisque vous êtes aujourd'hui donc un député RN, donc Rassemblement National. Sur le plan... Alors, vous avez quand même, et il faut le préciser, le rappeler, vous avez été élu avec deux autres collègues audois Rassemblement National en juin dernier. Ce qu'on peut appeler une vague Rassemblement National, en tout cas dans nos régions, départements. Et vous avez été élu sur des scores qui ne sont pas à remettre en question dans la mesure où il n'y a pas de... C'est des marges très nettes, ce qui a évidemment causé une énorme surprise dans des départements comme le nôtre, l'Aude, où on est habitué à des socialistes. Alors votre engagement, Frédéric Falcon, d'où vient-il ?
Bah écoutez, je viens d'une famille qui est assez politisée, c'est-à-dire que la politique a toujours été importante chez nous. Vous aviez des gens de droite, des gens de gauche, des gaullistes, des socialistes, des communistes, une famille française finalement, parce qu'à l'époque c'était les clivages qui existaient. Donc j'ai toujours été très sensibilisé à la politique et à la nécessité de s'engager pour les autres. Donc mon premier engagement, il a commencé quand j'étais à la fac. À l'époque, c'était dans les années, ça remonte, ça fait une petite quinzaine d'années, les années 2003, 2004, 2005, où là, j'ai commencé à m'engager plutôt côté droite classique, avec notamment en réaction à la gauche radicale, qui était parfois violente dans la fac dans laquelle j'étais. Et puis, j'ai adhéré à l'UMP jusqu'en 2014, que j'ai quitté. Parce que je supportais plus leur reniement, leur trahison. Enfin, j'estimais que vraiment j'avais plus ma place en politique et j'ai décidé à ce moment-là de faire une pause et de me consacrer un petit peu à ma vie professionnelle parce que bon, quand vous êtes simple militant, c'est
oui,
la politique ne vous fait pas vivre. et puis j'avais une déception, une vraie déception et je me suis dit à ce moment-là, c'est terminé, on verra plus tard, on verra si un jour il faut s'engager, si un jour, mais bon, pour le moment, concentre-toi sur ta vie professionnelle. Essaie d'être autonome et indépendant, et tu verras plus tard.
Alors Frédéric Falcon, est-ce que vous êtes engagé dans ce qui est aujourd'hui le Rassemblement National à l'époque du FN, du Front National, ou à l'époque, on va dire, du RN ?
Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en même temps qu'un certain nombre de mes amis de l'UMP, qui ont rejoint directement le Front National, notamment Sébastien Chenu, qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui en politique est plutôt un modèle.
Un mentor pour vous
ou... On a toujours été proches et c'est vrai que on a quitté l'UMP ensemble. Lui a rejoint le Front National tout de suite, ce que j'ai refusé de faire. À l'époque, le Front National cherchait, selon moi. C'était pas encore ce qui me correspondait.
Oui. Il avait peut-être aussi très mauvaise presse. Il l'a peut-être encore d'une certaine façon. Vous êtes placé pour le ressentir.
C'est aussi que je suis assez fidèle en politique. C'est-à-dire que quitter une famille politique pour tout de suite en rejoindre une autre, c'est un petit peu trop brutal pour moi. Il fallait quand même le temps de la digestion.
Un sas de décompression.
Je pense. Et puis retourner dans la vie politique. Alors là, je le dis en tant que simple militant. C'était pas vraiment à l'ordre du jour. Je voulais vraiment me concentrer sur ma vie professionnelle, ce qui a plutôt fonctionné. Et par contre, les années passant, arrive l'année 2017 avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Ah, ça a été un déclencheur pour vous ?
Ça a été un déclencheur. J'ai tout de suite compris que le projet d'Emmanuel Macron était vraiment, en ce qui me concerne, dangereux pour la France. Je me suis dit, là, ça va être compliqué. La philosophie du macronisme, a été pour moi un électrochoc. Voilà, parce que sous couvert de jeunesse, de sourires, de discours plus ou moins bienveillants, je voyais tout de suite derrière Emmanuel Macron le projet qu'il voulait mettre en place pour la France et la déconnexion qui s'installait entre une certaine élite, on va dire, j'aime pas opposer les Français les uns aux autres, mais entre une France qui va bien et une France qui va moins bien. Et ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de rester bras croisés, spectateur du délitement du pays, alors que tout allait bien pour moi. Moi, je pouvais continuer qu'ont tué mon chemin
Donc
professionnel dans mon
là,
coin.
vous adhérez au RN, alors.
Et je me suis dit, là, je ne peux pas rester les bras croisés. Et il se trouve que le discours de Marine Le Pen me séduisait plutôt, et je m'y retrouvais plutôt bien, notamment par souverainisme, parce que j'ai toujours été plutôt de cette tendance-là, y
Ah oui,
compris même à
ça
l'UMP.
c'est une des raisons essentielles de votre engagement, le
Oui, j'ai toujours
souverainisme.
été, même à l'UMP. Alors l'UMP, à l'époque, il faut comprendre que ça allait du parti chrétien-démocrate pour les très conservateurs jusqu'à la gauche moderne qu'on appelait de M. Bockel, du centre-gauche. C'était vraiment un parti très très large qui faisait 30%. Et vous aviez plein de sensibilités qui se retrouvaient, qui cohabitaient. Moi, j'ai toujours été dans cette tradition
Dans cette mouvance souverainiste, oui.
souverainiste, cette droite populaire, si vous voulez, que
Mais
je retrouve aujourd'hui chez Marine Le Pen. Et comme je le dis souvent, c'est vrai que je me retrouve plus parfois avec une certaine gauche, hein, populaire, avec laquelle finalement on partage pas mal d'aspirations, qu'avec cette droite libérale. Qui a viré Macron, qui a rejoint Macron par intérêt purement économique.
Alors, quand on dit souverainisme, on pense presque logiquement remise en question de l'Europe. Quel est votre sentiment et votre position là-dessus, Frédéric
Alors,
Falcone?
notre vision du souverainisme, je vais parler pour nous parce que c'est également la vision du souverainisme du mouvement à laquelle j'adhère, c'est pas une remise en question de l'Europe. L'Europe, c'est un
Enfin,
continent, c'est une
l'Union européenne, je
civilisation.
veux dire
C'est
l'Union
cette Union
européenne.
européenne, avec cette Commission européenne toute puissante, qui n'est pas élue, rappelons-le, hein, qui est nommée, qui est sous emprise de lobby, et qui impose tout un tas de réglementations, tout un tas de contraintes à des peuples qui n'en veulent pas. Nous, on veut une Europe des nations, c'est-à-dire que les nations soient unies, hein, dans une organisation. C'est l'Union européenne peut être ce cadre-là, mais la façon dont est dirigée l'Europe aujourd'hui ne nous convient pas. Elle est clairement antidémocratique. Et elle est en proie à des lobbies, voilà, qui défendent des intérêts particuliers, qui les imposent au peuple de façon parfois violente. Je pense que nos agriculteurs et nos viticulteurs nous comprennent parfaitement,
Bon, voilà
par
donc une
exemple.
explication de cette position qui est peu, parfois mal comprise également. Alors, Frédéric Falcone, donc, vous vous engagez au RN. Il y a une élection en 2020, en 2022. Donc, vous n'êtes pas. Quels sont comment dire, les liens avec la Narbonnaise? Parce que beaucoup ont été surpris de dire, tiens, ce Frédéric Falcone, d'où sort-il? On ne le connaît pas à Narbonne.
Oui, ça m'a beaucoup été reproché. Moi, j'ai ma famille qui est depuis 35-40 ans dans la Narbonnaise, qui est installée dans la Narbonnaise. Moi, j'y vivais déjà depuis un certain nombre d'années, on va dire à mi-temps, tout simplement parce que mon activité professionnelle indépendante ne pouvait pas s'épanouir complètement dans la Narbonnaise. Donc, je travaillais un peu dans toute la France, si vous voulez. Mais la Narbonnaise et l'Aude, c'est mon territoire d'attache, si vous voulez.
Donc
Après, j'ai pas honte de dire que j'ai bougé, que j'ai vécu dans un certain nombre de villes. J'ai aussi vécu à l'étranger. Enfin, la mobilité a toujours été encouragée dans ma famille. Mais notre point d'attache a toujours été la Narbonnaise. J'ai appris à marcher à Narbonne. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais pas familier des Narbonnais, parce que Narbonne est une petite ville et tout le monde se connaît. Ma famille est plutôt discrète, mais nous considérons aujourd'hui que nous sommes chez nous,
Voilà, bon, bah ça
comme un
c'est.
certain nombre de Narbonnais qui ne sont pas forcément nés ici. Ça m'a beaucoup été reproché. Vous
Oui.
n'êtes pas né ici. Oui, mais
Oui. Bon.
60% des Audois ne sont pas nés dans l'Aude.
Bon, voilà. Alors aujourd'hui, donc, Frédéric Falcone, vous êtes député de Narbonne, c'est incontestable. Alors, il y a presque un an maintenant que vous êtes sur le terrain, à la fois à l'Assemblée nationale et sur le terrain narbonnais, ça se passe pas toujours très bien, parce que si j'en crois, par exemple, les communiqués de votre attaché parlementaire, qui fait bien son travail puisqu'il nous informe,
Oui, d'ailleurs,
d'ailleurs.
je tiens à saluer toute mon équipe qui fait un travail qui n'est pas toujours facile.
Voilà, mais il nous informe et il nous dit, par exemple, que vous rouspétez parce que telle inauguration, vous n'avez pas été invité, ou alors si vous étiez là, on ne vous a pas donné la parole. Donc ça se passe pas toujours très bien, malgré que vous arriviez avec l'écharpe du député.
Alors déjà, il faut nuancer. Ça se passe très bien avec les Audois et les Narbonnais. J'ai toujours un accueil qui est chaleureux. Ça se passe plutôt bien. Par contre, c'est plus contrasté côté élu. Voilà. Et là encore, je vais pas généraliser parce qu'il y a des élus avec lesquels ça se passe bien. Quand je dis que ça se passe bien, c'est-à-dire que j'ai des rapports courtois et normaux,
oui,
députés, mais
ce qu'on
qu'un député a avec un maire.
Des rapports républicains, normaux.
Tout simplement. Donc, il faut pas non plus jeter l'opprobre sur tous les maires de la circonscription parce qu'il y en a qui font leur boulot comme ils peuvent. Il y en a aussi qui souhaitent me rencontrer, qui me disent, mais écoutez, c'est compliqué pour moi parce que si je m'affiche avec vous, même dans le cadre d'un simple rendez-vous, j'ai derrière le département de l'Aude, j'ai l'Occitanie, la région Occitanie qui me finance, et il y a une vraie chape de plomb qui s'exerce sur les élus et une vraie pression.
C'est-à-dire
donc c'est pas facile.
Il ne cache pas ressentir une menace de chantage.
C'est pas forcément une menace qui est formulée, mais en tout cas, il y a une pression qui est forte sur eux parce qu'ils sont déjà à la tête de communes qui ont des difficultés. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, maire, c'est un boulot qui est difficile. Donc, prendre le risque de s'afficher, ne serait-ce qu'avec un rendez-vous avec moi publiquement, c'est pour un certain nombre d'entre eux la menace potentielle de représailles du département ou de la région. Avec Madame Delga, qui, vous savez, patronne la région,
oui,
et en guerre contre nous. Donc c'est pas facile non plus pour eux. Et enfin, vous avez des maires qui sont clairement, disons-le, socialistes, parce que c'est souvent des socialistes purs et durs et sectaires, qui refusent catégoriquement de vous recevoir ou de vous inviter à toute forme de manifestation. Mais au-delà des postures morales, moi je pense surtout que l'élection des trois députés Rassemblement National dans l'Aude a secoué ce système socialiste qui était en vigueur depuis un siècle et qui tient tout dans le département. Donc c'est un système qui, alors parfois j'ose le mot, hein, qui est parfois un peu mafieux. J'assume complètement ce qualificatif, et qui est aujourd'hui bousculé par notre famille politique et par également les Audois qui veulent y mettre fin, parce que c'est pas simplement notre fait. Il y a beaucoup d'Audois qui en ont ras-le-bol de ce système verrouillé.
Oui, voilà. Une dernière petite remarque sur cette entrée difficile dans le terrain avant de marquer une
ça
pause.
Ça tend à se pacifier, je précise tout de même.
Bon,
les sondages aidants.
Voilà. Avant de marquer la pause, quand même, j'y reviens parce que c'était pas anodin. Vous avez, alors, je vais mettre des guillemets, vous avez été recadré par le procureur de la République en janvier dernier, parce que vous aviez fait état à propos d'un fait divers qui était l'incendie d'une chapelle à Fleury, dans une commune. Vous aviez pris une position qui a semblé politicienne en disant c'est un acte de terrorisme anti-chrétien. Enfin, et vous avez été donc, je mets mes guillemets, recadré par, selon la presse, par le procureur de la République. Comment les choses se sont-elles présentées? C'est pas clair pour vous.
Alors j'ai fait un communiqué de presse pour dénoncer ces actes de vandalisme qui s'inscrivent dans un climat, et je précise bien, général, d'actes anti-chrétiens, de vandalisme des églises. Vous avez tout un tas de monuments qui sont aujourd'hui attaqués,
incendiés.
Mais
là, ça n'a pas été le cas du tout. C'était des gamins apparemment qui ont
fait gamins qui
des
ont
bêtises.
Brûlé une église et qui ont inscrit des croix gammées quand même. Est-ce que vous... Enfin moi, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça plutôt scandaleux. Et le procureur est sorti de son devoir de réserve parce qu'il n'a pas à prendre position.
Mais il ne vous a pas nommé.
Oui, mais tout le monde a compris de qui il s'agissait. Oui. Il est sorti de son devoir de réserve. Si Monsieur le procureur considère que tout va bien, que l'insécurité n'existe pas à Narbonne alors qu'elle explose. Eh bien, écoutez, très bien pour lui. Mais moi, mon rôle de politique, c'est de dénoncer ça. Moi, je dénonce clairement, je le redis, tous ces actes de vandalisme qui s'en prennent à nos églises, mais également à des monuments juifs en France. On peut pas dire que les actes anti-chrétiens n'existent pas. C'est faux.
Voilà, on marque une première pause, Frédéric Falcon. On se retrouve dans une seconde partie où on va évoquer un certain nombre de prises de position que vous avez été amené à prendre du fait de votre mandat de député et sur le terrain et à l'Assemblée.